lettre à un religieux de Simone Veil. Deuxième partie. 21e. En particulier, la croyance qu'un homme peut être sauvé hors de l'Église visible exige qu'on pense à nouveau tous les éléments de la foi sous peine d'incohérence complète. Car tout l'édifice est construit autour de l'affirmation contraire, que presque personne aujourd'hui n'oserait soutenir. On n'a pas encore voulu reconnaître la nécessité de cette révision. On s'en tire par des artifices misérables. On masque les dislocations avec des ersatz de soudure, des fautes de logique criantes. Si l'Église ne reconnaît pas bientôt cette nécessité, il est à craindre qu'elle ne puisse pas accomplir sa mission. Il n'y a pas de salut sans nouvelle naissance, sans illumination intérieure, sans présence du Christ et du Saint-Esprit dans l'âme. Si donc il y a possibilité de salut hors de l'Église, il y a possibilité de révélations individuelles ou collectives hors du christianisme. En ce cas, la vraie foi constitue une espèce d'adhésion très différente de celle qui consiste à croire telle ou telle opinion. Il faut penser à nouveau la notion de foi. 22e. En fait, les mystiques de presque toutes les traditions religieuses se rejoignent presque jusqu'à l'identité. Ils constituent la vérité de chacune. La contemplation pratiquée en Inde, Grèce, Chine, etc., est tout aussi surnaturelle que celle des mystiques chrétiens. Notamment, il y a une très grande affinité entre Platon et par exemple Saint Jean de la Croix. Aussi entre les Upanishads hindous et Saint Jean de la Croix. Le taoïsme aussi est très proche de la mystique chrétienne. L'orphisme et le pythagorisme étaient des traditions mystiques authentiques. Éleusis aussi. 23e. Il n'y a aucune raison de supposer qu'après un crime aussi atroce que le meurtre d'un être parfait, l'humanité ait dû devenir meilleure. Et en fait, globalement, elle ne semble pas être devenue meilleure. La rédemption se place sur un autre plan, un plan éternel. D'une manière générale, il n'y a pas de raison d'établir une liaison entre le degré de perfection et la chronologie. Le christianisme a fait entrer dans le monde cette notion de progrès inconnue auparavant, et cette notion devenue le poison du monde moderne l'a déchristianisée. Il faut l'abandonner. Il faut se défaire de la superstition de la chronologie pour trouver l'éternité. 24e. Les dogmes de la foi ne sont pas des choses à affirmer. Ce sont des choses à regarder à une certaine distance, avec attention, respect et amour. C'est le serpent d'airain dont la vertu est telle que quiconque le regarde vivra. Ce regard attentif et aimant, par un choc en retour, fait jaillir dans l'âme une source de lumière qui illumine tous les aspects de la vie humaine ici-bas. Les dogmes perdent cette vertu dès qu'on les affirme. Les propositions « Jésus-Christ est Dieu » ou « Le pain et le vin consacrés sont la chair et le sang de Christ » énoncées comme des faits, n'ont rigoureusement aucun sens. La valeur de ces propositions est absolument différente de la vérité enfermée dans l'énonce exacte d'un fait. Exemple, Salazar est chef du gouvernement portugais ou d'un théorème géométrique. Cette valeur n'est pas à rigoureusement parler de l'ordre de la vérité, mais d'un ordre supérieur, car c'est une valeur non saisissable par l'intelligence, sinon indirectement par les effets. Et la vérité, au sens strict, est du domaine de l'intelligence. 25e. Les miracles ne sont pas des preuves de la foi. Proposition frappée d'anathème par je ne sais quel concile. Si les miracles constituent des preuves, ils prouvent trop, car toutes les religions ont et ont toujours eu leurs miracles, y compris les sectes les plus étranges. Il est question de morts ressuscités dans le ciel. Les traditions hindoues sont pleines de telles histoires, et on dit qu'aujourd'hui encore, en Inde, les miracles sont des événements sans intérêt à cause de leur banalité. Affirmer ou que les miracles chrétiens sont seuls authentiques et tous les autres mensongers, ou qu'ils sont seuls causés par Dieu et tous les autres par le démon, C'est un expédient misérable, car c'est une affirmation arbitraire. Et dès lors, les miracles ne prouvent rien. Ils ont eux-mêmes besoin d'être prouvés, puisqu'ils reçoivent du dehors un cachet d'authenticité. On peut en dire autant des prophéties des martyrs. Quand le Christ invoque ses ka lai erga, il n'y a pas de raison de traduire par miracle. On peut aussi bien traduire bonnes œuvres, belles actions. Telle que je la comprends, la pensée du Christ était qu'on devait le reconnaître pour saint parce qu'il faisait perpétuellement et exclusivement le bien. Il a dit « Sans mes œuvres, il serait sans péché. » Mais aussi, et en mettant les deux choses sur le même plan, « Sans mes paroles, il serait sans péché. » Or, ces paroles n'étaient nullement miraculeuses, seulement belles. La notion même de miracle est occidentale et moderne. Elle est liée à la conception scientifique du monde, avec laquelle pourtant elle est incompatible. Ce que nous regardons comme des miracles, les hindous y voient des effets naturels de pouvoirs exceptionnels qu'on trouve chez peu de gens, et le plus souvent chez des saints. Ils constituent donc une présomption de sainteté. Le mot « signe » dans l'Évangile ne veut pas dire davantage. Il ne peut pas vouloir dire davantage. Car le Christ a dit « Beaucoup me diront « N'avons-nous pas fait des signes en ton nom ?» Et je leur dirai « Loin d'ici, ouvriers d'iniquité !» Et il surgira des pseudo-prophètes et des pseudo-Christ, et ils fourniront des signes et des prodiges considérables au point que même les élus, s'ils se pouvaient, seraient trompés. À l'Apocalypse 13, versets 3, 4, semble indiquer une mort et une résurrection de l'Antéchrist. Le Deutéronome dit « Si un prophète vient annoncer un Dieu nouveau, même s'il fait des miracles, tuez-le. » Si les Juifs ont eu tort de tuer le Christ, ce n'est donc pas à cause de ses miracles, mais à cause de la sainteté de sa vie et de la beauté de ses paroles. En ce qui regarde l'authenticité historique des faits qu'on nomme miracles, il n'y a pas de motif suffisant, ni pour l'affirmer, ni pour la nier catégoriquement. Et si on admet cette authenticité, il y a plusieurs manières possibles de concevoir la nature de ces faits. Il y en a une qui est compatible avec la conception scientifique du monde. Par là, elle est préférable. La conception scientifique du monde, bien comprise, ne doit pas être séparée de la vraie foi. Dieu a créé cet univers comme un tissu de causes secondes. Il semble y avoir de l'impiété à supposer des trous dans ce tissu, comme si Dieu ne pouvait parvenir à ses fins sans attenter à sa propre œuvre. Si on admet de tels trous, il devient scandaleux que Dieu n'en fasse pas pour sauver les innocents du malheur. La résignation au malheur des innocents ne peut surgir dans l'âme que par la contemplation et l'acceptation de la nécessité, laquelle est l'enchaînement rigoureux des causes secondes. Autrement, on est forcé d'avoir recours à des artifices qui tous reviennent à nier le fait même du malheur des innocents, et par suite à fausser toute intelligence de la condition humaine et le noyau même de la conception chrétienne. Les faits dits miraculeux sont compatibles avec la conception scientifique du monde si on admet comme postulat qu'une science suffisamment avancée pourrait en rendre compte. Ce postulat ne supprime pas la liaison de ces faits avec le surnaturel. Un fait peut être lié au surnaturel de trois manières. Certains faits peuvent être des effets ou de ce qui se produit dans la chair, ou de l'action du démon sur l'âme, ou de l'action de Dieu. Ainsi, un homme pleure de douleur physique. À côté de lui, un autre pleure en pensant à Dieu avec un amour pur. Dans les deux cas, il y a des larmes. Ces larmes sont les effets d'un mécanisme psychophysiologique. Mais dans un des deux cas, un rouage de ce mécanisme est surnaturel. C'est la charité. En ce sens, quoique les larmes soient un phénomène si ordinaire, les larmes d'un saint en état de contemplation authentique sont surnaturelles. En ce sens, et en ce sens seulement, les miracles d'un saint sont surnaturels. Ils le sont au même titre que tous les effets matériels de la charité. Une aumône accomplie par charité pure est un prodige aussi grand que la marche sur les eaux. Un saint qui marche sur les eaux est de tout point analogue à un saint qui pleure. Dans les deux cas, il y a un mécanisme psychophysiologique dont un rouage est la charité. Là est le prodige, que la charité puisse être un rouage d'un tel mécanisme, et qui a un effet visible. Elle est visible et dans un cas la marche sur les eaux, dans l'autre cas les larmes. Le premier est plus rare, c'est la seule différence. Y a-t-il certains faits que la chair seule ne peut jamais produire, mais seulement des mécanismes où, entre comme rouage, soit l'amour surnaturel, soit la haine démoniaque? La marche sur les eaux est-elle de ce nombre? C'est possible. Nous sommes trop ignorants pour pouvoir soit affirmer, soit nier en cette matière. Y a-t-il des faits que ni la chair, ni la haine démoniaque ne peuvent produire, qui peuvent seulement résulter de mécanismes qui ont parmi leur rouage la charité? De tels faits seraient des critères certains de la sainteté. Il y en a peut-être. Là aussi, nous sommes trop ignorants pour pouvoir affirmer ou nier. Mais pour cette raison même, si de tels faits existent, ils ne peuvent nous être d'aucun usage. Ils ne peuvent nous servir de critères, puisque nous ne pouvons avoir aucune certitude à leur sujet. Ce qui est incertain ne peut pas rendre une autre chose certaine. Le Moyen Âge a été obsédé par la recherche d'un critérium matériel de la sainteté. C'est la signification de la recherche de la pierre philosophale. La quête du Graal semble porter sur le même thème. La vraie pierre philosophale, le vrai Graal, c'est l'Eucharistie. Le Christ nous a indiqué ce que nous devons penser des miracles en mettant au centre même de l'Église un miracle invisible et en quelque sorte purement conventionnel. Seulement la convention est ratifiée par Dieu. Dieu veut rester caché. Votre Père qui habite dans le secret. Hitler pourrait mourir et ressusciter 50 fois que je ne le regarderai pas comme le Fils de Dieu. Et si l'Évangile omettait toute mention de la résurrection du Christ, la foi me serait plus facile. La croix seule me suffit. La preuve pour moi, la chose vraiment miraculeuse, c'est la parfaite beauté des récits de la Passion, joints à quelques paroles fulgurantes d'Isaïe. Injurié, maltraité, il n'ouvrait pas la bouche. Et de saint Paul. Il n'a pas regardé l'égalité avec Dieu comme un butin. Il s'est vidé, il s'est fait obéissant jusqu'à la mort, et la mort de la croix. Il a été fait malédiction. C'est cela qui me contraint à croire. L'indifférence à l'égard des miracles ne me gênerait pas, puisque la croix produit sur moi le même effet que sur d'autres, la résurrection, sans l'anathème lancé par un concile. D'autre part, si l'Église ne met pas au point une doctrine satisfaisante des faits dits miraculeux, beaucoup d'âmes se perdront par sa faute à cause de l'incompatibilité apparente entre la religion et la science. Et beaucoup d'autres se perdront parce que, croyant que Dieu entre fréquemment dans le tissu des causes secondes pour produire des faits particuliers avec une intention particulière, ils lui imputent la responsabilité de toutes les atrocités où il n'intervient pas. La conception courante des miracles, ou bien empêche l'acceptation inconditionnée de la volonté de Dieu, ou bien oblige à s'aveugler sur la quantité et la nature du mal qui existe dans le monde, chose facile évidemment au fond d'un cloître, et même dans le monde à l'intérieur d'un milieu restreint. Aussi remarque-t-on chez beaucoup d'âmes pieuses et même saintes une puérilité déplorable. Le livre de Job pourrait n'avoir jamais été écrit tant la condition humaine est ignorée. Pour de telles âmes, il n'y a que des pécheurs d'une part, d'autre part des martyrs qui meurent en chantant. C'est pourquoi la foi chrétienne ne mord pas, ne se propage pas d'âme en âme comme un incendie. Au reste, si les miracles avaient la nature, la signification et la valeur qu'on leur attribue, leur rareté aujourd'hui, malgré Lourdes et le reste, pourrait faire croire que l'Église n'a plus guère de part à Dieu. Car le Christ ressuscité a dit « Celui qui a cru et aura été baptisé sera sauvé. Celui qui n'aura pas cru sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, parleront en de nouvelles langues, saisiront les serpents. S'ils boivent des poisons mortels, cela ne leur nuira pas. Ils imposeront les mains et guériront. » Combien y a-t-il de croyances aujourd'hui d'après ce critérium? Heureusement que ce texte n'est peut-être pas authentique. Mais la Vulgate l'admet. 26e. Les mystères de la foi ne sont pas un objet pour l'intelligence en tant que faculté qui permet d'affirmer ou de nier. Ils ne sont pas de l'ordre de la vérité, mais au-dessus. La seule partie de l'âme humaine qui soit capable d'un contact réel avec eux, c'est la faculté d'amour surnaturel. Seule par suite, elle est capable d'une adhésion à leur égard. Le rôle des autres facultés de l'âme, à commencer par l'intelligence, est seulement de reconnaître que ce avec quoi l'amour surnaturel a contact, ce sont des réalités, que ces réalités sont supérieures à leurs objets à elles, et de faire silence dès que l'amour surnaturel s'éveille d'une manière actuelle dans l'âme. La vertu de charité est l'exercice de la faculté d'amour surnaturel. La vertu de foi est la subordination de toutes les facultés de l'âme à la faculté d'amour surnaturel. La vertu d'espérance est une orientation de l'âme vers une transformation après laquelle elle sera tout entière et exclusivement amour. Pour se subordonner à la faculté d'amour, les autres facultés doivent y trouver chacune son bien propre, et particulièrement l'intelligence qui est la plus précieuse après l'amour. Il en est bien effectivement ainsi. Quand l'intelligence, ayant fait silence pour laisser l'amour envahir toute l'âme, recommence de nouveau à s'exercer, elle se trouve contenir davantage de lumière qu'auparavant, davantage d'aptitude à saisir les objets, les vérités qui lui sont propres. Bien plus, je crois que ces silences constituent pour elle une éducation qui ne peut avoir aucun autre équivalent et lui permettent de saisir des vérités qui autrement lui resteraient toujours cachées. Il y a des vérités qui sont à sa portée, saisissables pour elle, mais qu'elle ne peut saisir qu'après avoir passé en silence à travers l'inintelligible. N'est-ce pas ce que saint Jean de la Croix veut dire en nommant la foi une nuit? L'intelligence ne peut reconnaître que par expérience, après coup, les avantages de cette subordination à l'amour. Elle ne les pressent pas d'avance. Elle n'a d'abord aucun motif raisonnable d'accepter cette subordination. Aussi, cette subordination est-elle chose naturelle, opérée par Dieu seul. Le premier silence, long d'un instant à peine, qui se produit à travers toute l'âme en faveur de l'amour surnaturel, c'est le grain jeté par le semeur. C'est la graine de Sénévé, presque invisible, qui deviendra un jour l'arbre de la croix. De même, quand on fait parfaitement attention à une musique parfaitement belle, et de même pour l'architecture, la peinture, etc., l'intelligence n'y trouve rien à affirmer ou à nier. Mais toutes les facultés de l'âme, y compris l'intelligence, font silence et sont suspendues à l'audition. L'audition est appliquée à un objet incompréhensible, mais qui enferme de la réalité et du bien. Et l'intelligence, qui n'y saisit aucune vérité, y trouve néanmoins une nourriture. Je crois que le mystère du beau dans la nature et dans les arts, seulement dans l'art de tout premier ordre, parfait ou presque, est un reflet sensible du mystère de la foi. 27. On doit aux précisions dont l'Église a cru devoir entourer les mystères de la foi, et notamment à ses condamnations, anathema sit, une attitude permanente et inconditionnelle d'attention respectueuse, mais non pas une adhésion. Et on doit également une attention respectueuse aux opinions condamnées, pour peu que leur contenu, ou l'avis de ceux qui les ont proposés, contiennent quelque apparence de bien. À l'adhésion de l'intelligence n'est jamais due à quoi que ce soit, car ce n'est jamais à aucun degré chose volontaire. L'attention seule est volontaire, aussi est-elle seule manière d'obligation. Si on veut provoquer en soi volontairement une adhésion de l'intelligence, ce qui se produit, ce n'est pas une adhésion de l'intelligence, c'est la suggestion. C'est à cela que revient la méthode de Pascal. Rien ne dégrade davantage la foi. Et il se produit forcément tôt ou tard un phénomène de compensation sous forme de doute et de tentation contre la foi. Rien n'a davantage contribué à affaiblir la foi et à propager l'incrédulité que la fausse conception d'une obligation de l'intelligence. Toute obligation autre que l'attention elle-même imposée à l'intelligence dans l'exercice de sa fonction étouffe l'âme. Toute l'âme et non pas l'intelligence seule. 28. La juridiction de l'Église en matière de foi est bonne pour autant qu'elle impose à l'intelligence une certaine discipline de l'attention. Aussi, pour autant qu'elle l'empêche d'entrer dans le domaine des mystères qui lui est étranger et d'y divaguer. Elle est tout à fait mauvaise en tant qu'elle empêche l'intelligence dans l'investigation des vérités qui lui sont propres d'user avec une liberté totale de la lumière diffusée dans l'âme par la contemplation amoureuse. La liberté totale, dans son domaine, est essentielle à l'intelligence. L'intelligence doit ou s'exercer avec une liberté totale ou se taire. Dans son domaine, l'Église n'a aucun droit de juridiction, et par suite, notamment, toutes les définitions où il est question de preuves sont illégitimes. Pour autant que « Dieu existe » est une proposition intellectuelle, mais seulement dans cette mesure, on peut la nier sans commettre aucun péché, ni contre la charité, ni contre la foi. Et même cette négation faite à titre provisoire est une étape nécessaire dans l'investigation philosophique. En fait, il y a depuis le début, ou presque, un malaise de l'intelligence dans le christianisme. Ce malaise est dû à la manière dont l'Église a conçu son pouvoir de juridiction, et notamment l'usage de la formule « anathema sit ». Partout où il y a malaise de l'intelligence, il y a oppression de l'individu par le fait social, lequel tend à devenir totalitaire. Au XIIIe siècle, surtout, l'Église a établi un commencement de totalitarisme. Par là, elle n'est pas sans responsabilité dans les événements actuels. Les partis totalitaires se sont formés par l'effet d'un mécanisme analogue à l'usage de la formule « anathema sit ». Cette formule, et l'usage qui en a été fait, empêche l'Église d'être catholique autrement que de nom. 29e. Avant le christianisme, un nombre indéterminé d'hommes, dans Israël et hors d'Israël, sont peut-être allés aussi loin que les saints chrétiens dans l'amour et dans la connaissance de Dieu. De même, depuis le Christ, pour la portion de l'humanité située hors de l'Église catholique, infidèle, hérétique, incroyant. Et plus généralement, il est douteux qu'il y ait eu depuis le Christ plus d'amour et de connaissance de Dieu dans la chrétienté que dans certains pays non chrétiens tels que l'Inde. 30e. Il est très probable que la destinée éternelle de deux enfants morts quelques jours après la naissance, l'un baptisé et l'autre non, est identique, même si les parents du second n'avaient aucune intention de le faire baptiser. 31e. Parmi tous les livres de l'Ancien Testament, un petit nombre seulement, Isaïe, Job, le Cantique des Cantiques, Daniel, Tobie, une partie des livres sapientiaux, le début de la Genèse, est assimilable pour une âme chrétienne, et quelques formules éparses à travers les autres. Le reste est indigestible, parce qu'il y manque une vérité essentielle qui est au centre du christianisme et que les Grecs connaissaient parfaitement bien, à savoir la possibilité du malheur des innocents. Aux yeux des Hébreux, du moins avant l'exil, et sauf exception, péché et malheur, vertu et prospérité sont inséparables, ce qui fait de Yahvé un père terrestre et non céleste, visible et non caché. C'est donc un faux Dieu. Un acte de charité pure est impossible avec cette conception. 32e. On pourrait poser en postulat « est fausse toute conception de Dieu incompatible avec un mouvement de charité pure. Sont vraies, à des degrés divers, toutes les autres. L'amour et la connaissance de Dieu ne sont pas réellement séparables, car il est dit dans l'Ecclésiastique « praebuit sapientiam diligentibus se ». 33e. L'histoire de la création et du péché originel dans la Genèse est vraie. Mais d'autres histoires de création et de péché originel dans d'autres traditions sont vraies aussi et enferment aussi des vérités incomparablement précieuses. Ce sont des reflets divers d'une vérité unique, intraduisible en paroles humaines. On peut la pressentir à travers un de ces reflets. On la pressent mieux encore à travers plusieurs. Notamment, le folklore, bien interprété, enferme des trésors de spiritualité. 34e. L'Église n'a vraisemblablement pas parfaitement rempli sa mission de conservatrice de la doctrine. Il s'en faut de beaucoup. Non seulement parce qu'elle a ajouté des précisions, restrictions et interdictions peut-être abusives, mais aussi parce qu'elle a presque certainement perdu des trésors. Il en reste comme témoignage des passages du Nouveau Testament, admirablement beaux, mais aujourd'hui tout à fait incompréhensibles, et qui n'ont pas dû l'être toujours. D'abord, presque toute l'Apocalypse. Le passage de Saint Jean, le Christ qui est venu à travers l'eau et le sang. Non pas dans l'eau seulement, mais dans l'eau et le sang. Trois témoignent, l'Esprit, l'eau et le sang, et ces trois se remènent à l'unité. L'insistance du même Saint Jean sur l'eau et le sang sortit du flanc du Christ. L'entretien avec Nicodème aussi est très mystérieux. Saint Paul, que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour, pour avoir la force de saisir, comme font tous les saints, ce que sont la longueur, la largeur, la hauteur et la profondeur, et de connaître ce qui passe toute connaissance, l'amour du Christ. Déjà, Origène, séparé de Saint Paul par si peu de temps, commente ce beau passage de la manière la plus plate. Le passage de Saint Paul sur Melchisédek. Sans père, sans mère, sans généalogie, prêtre pour l'éternité, assimilé au Fils de Dieu. La doctrine de la résurrection de la chair vivante qui doit périr, la chair spirituelle, pneumatiquée. Faut-il penser à la théorie pythagoricienne du pneuma contenu dans la semence, qui est éternelle? Le rapport entre cette doctrine et l'importance attachée à la chasteté. Tout péché commis par l'homme est extérieur au corps. Le fornicateur pêche contre son propre corps. La nourriture est pour le ventre, et le ventre pour la nourriture. Dieu détruira l'une et l'autre. Mais le corps est non pas pour la fornication, mais pour le Seigneur, et le Seigneur pour le corps. Quel est ici le sens du mot « corps » si singulièrement opposé à « ventre » ? L'étude des doctrines hindoues jette là-dessus une lumière bien plus vive qu'aucun texte chrétien à ma connaissance. Les chrétiens n'ont jamais dit, que je sache, pourquoi la chasteté, et notamment la virginité, a une valeur spirituelle. C'est une grave lacune, et qui éloigne du Christ beaucoup d'âmes. Le rapport de la doctrine de la rédemption, où l'homme est le but, et qui, comme Abélard le remarquait très bien, est tout à fait inintelligible, et de la doctrine en apparence contraire, indiquée par les mots « Dieu a voulu donner à son Fils beaucoup de frères. Nous aurions été créés alors à cause de l'incarnation. » Le rapport mystérieux entre la loi et le péché, exprimé par saint Paul d'une manière parfois si étrange. Là aussi, la pensée hindoue fournit un peu de lumière. L'insistance, mise à répéter des expressions comme « pendu au bois »,« fait malédiction ». Là, il y a quelque chose de perdu, sans retour. La violence extraordinaire du Christ contre les pharisiens, représentants du plus pur esprit d'Israël. L'hypocrisie, l'étroitesse et la corruption, vice commun à toute espèce de clergé, à cause de la faiblesse humaine, n'expliquent pas cette violence. Et une parole à son trait mystérieux indique qu'il y avait autre chose. Vous avez enlevé la clé de la connaissance. Les pythagoriciens nommaient clé la médiation entre Dieu et la création. Ils la nommaient aussi harmonie. La parole, soyez parfait comme votre Père céleste est parfait, venant aussitôt après, votre Père, celui des cieux, fait lever son soleil sur les mauvais et les bons, et fait pleuvoir sur les injustes et les justes, implique toute une doctrine qui, à ma connaissance, n'est développée nulle part. Car le Christ cite comme trait suprême de la justice de Dieu ce qu'on allègue toujours, exemple Job, pour l'accuser d'injustice, à savoir qu'il favorise indifféremment les bons et les mauvais. Il devait y avoir dans l'enseignement du Christ la notion d'une certaine vertu d'indifférence, semblable à ce qu'on peut trouver dans le stoïcisme grec et la pensée hindoue. Cette parole du Christ rappelle le cri même de Prométhée. Ciel, par qui pour tous la commune lumière tourne. De plus, cette lumière et cette eau ont probablement aussi une signification spirituelle, c'est-à-dire que tous, dans Israël et dehors, dans l'Église et dehors, sont également inondés de grâce, bien que la plupart la refusent. Cela est tout à fait contraire à la conception courante, selon laquelle Dieu envoie arbitrairement plus de grâce à l'un, moins à l'autre, comme un souverain capricieux. Cela sous le prétexte qu'il ne la doit pas. Il doit, à sa propre bonté infinie, d'accorder à chaque créature la plénitude du bien. Il faut plutôt penser qu'il répand continuellement sur chacun la plénitude de la grâce, mais on y consent plus ou moins. En matière purement spirituelle, Dieu exauce tous les désirs. Ceux qui ont moins demandé. Le fait même d'avoir traduit logos par verbum indique que quelque chose a été perdu, car, en grec dans le texte, veut dire, avant tout rapport, est synonyme de, en grec dans le texte, nombre chez Platon et les pythagoriciens. Rapport, c'est-à-dire proportion. Proportion, c'est-à-dire harmonie. Harmonie, c'est-à-dire médiation. Je traduirais « au commencement était la médiation ». Tout ce début de l'évangile de saint Jean est très obscur. La parole « il était la lumière vraie, illuminant tout homme qui vient au monde » contredit absolument la doctrine catholique du baptême. Car dès lors, le Verbe habite en secret en tout homme, baptisé ou non. Ce n'est pas le baptême qui le fait entrer dans l'âme. On pourrait citer beaucoup d'autres passages. D'une part, l'incompréhension d'une partie des disciples, même après la Pentecôte, prouvée par l'épisode de Pierre et Corneille, d'autre part, les massacres causés par la persécution, expliquent cette insuffisance dans la transmission. Peut-être que vers le début du IIe siècle, tous ceux qui avaient été compris ont été tués, ou presque tous. La liturgie aussi contient des paroles à son mystérieux. Quaerens me sedistilassus doit avoir un rapport à autre chose encore qu'au récit de l'épisode de la Samaritaine dans saint Jean. Le rapprochement de cette parole avec le thème d'une grande quantité de récits du folklore les illumine d'une vive clarté. L'idée d'une quête de l'homme par Dieu est d'une splendeur et d'une profondeur insondables. Il y a décadence quand elle est remplacée par l'idée d'une quête de Dieu par l'homme. Beata arbor cuius brachis pretium pependit seculi statera facta corporis titilque praedam tartari. Ce symbole de la balance est d'une profondeur merveilleuse. La balance jouait un grand rôle dans la pensée égyptienne. Quand le Christ est mort, le soleil était dans la constellation du bélier et la lune dans celle de la balance. Remarquez que ce signe était nommé les pinces du cancer. Les écrivains ne commencent à lui donner le nom de balance que peu de temps avant l'ère chrétienne. Un mois auparavant, le soleil étant dans le poisson et la lune dans la vierge. Confère la signification symbolique du poisson. Si on songe à cette métaphore, la parole d'Archimède « Donne-moi un point d'appui et j'ébranlerai le monde » peut être regardée comme une prophétie. Le point d'appui est la croix, intersection du temps et de l'éternité. Sicut sidus radium, profer virgo filium, par forma. Neque sidus radio, neque mater filio, fit corrupta. Ces vers rendent un son très étrange. Et la strophe précédente, Sol occasum nescience, stella semper rutilans, semper clara, devient extraordinaire par rapprochement avec un conte des Indiens d'Amérique, où le soleil, amoureux d'une fille de chef qui a repoussé tous les prétendants, descend sur terre comme un garçon malade, presque aveugle, d'une pauvreté sordide. Une étoile l'accompagne et s'incarne comme une misérable vieille, grand-mère du garçon. Le chef met la main de sa fille au concours et impose des épreuves très difficiles. Le misérable garçon, quoique malade et couché sur sa paillasse, contre toute attente, est seul à les réussir toutes. La fille du chef va chez lui comme épouse, malgré sa répugnance, par fidélité à la parole de son père. Le malheureux garçon se transforme en un prince merveilleux et transforme son épouse, changeant en or ses cheveux et ses vêtements. On ne pourrait pourtant pas attribuer ce conte à une influence chrétienne, il semble. Dans la liturgie des jours saints, ipse lignum tunc notavit, damna lignit ut solveret, arbor una nobilis, nulla silva talem profert. Fronde, flore, germine, rendent aussi un son étrange. Ces paroles sont splendides. Il a dû s'y rapporter toute une symbolique aujourd'hui perdue. D'ailleurs, toute la liturgie de la semaine sainte a pour ainsi dire un parfum d'antiquité hallucinant. La légende du Graal indique une combinaison aujourd'hui inintelligible, opérée sans doute au cours des années qui ont suivi la mort du Christ, bien que les poèmes datent du XIIe siècle, entre le druidisme et le christianisme. Remarquez que l'Église n'a jamais condamné les poèmes sur le Graal, malgré le mélange évident du christianisme avec une tradition non chrétienne. Presque aussitôt après la Passion, Hérode a été envoyé en résidence forcée à Lyon, accompagné d'une nombreuse suite où il devait y avoir des chrétiens, peut-être Joseph d'Arimathie. Les druides ont été examinés par Claude quelques années plus tard. Les Dionysiaques de Nonos, poème d'un Égyptien probablement chrétien du VIe siècle, mais où il n'est question que de dieux grecs et d'astrologie, et qui présente avec l'Apocalypse des ressemblances très singulières, ont dû être inspirés par une combinaison de même espèce. Nota bene. Il y est question d'un roi lycurgue, déjà nommé dans Homère, qui a attaqué par traîtrise Dionysos désarmé et l'a forcé à se réfugier au fond de la mer Rouge. Il était roi des Arabes qui sont au sud du mont Carmel. Géographiquement, il ne peut guère s'agir que d'Israël. Si on admettait qu'Israël était regardé par les anciens comme un peuple maudit, parce qu'ayant refusé la notion du Dieu médiateur, souffrant et rédempteur révélé à l'Égypte, on comprendrait ce qui autrement est inexplicable, à savoir qu'Hérodote, si avide de toutes les curiosités d'ordre religieux, n'ait jamais parlé d'Israël. Remarquez qu'Israël était prédestiné pour servir du berceau au Christ, mais aussi pour l'assassiner. Remarquez aussi que, d'après de nombreux témoignages, Dionysos est le même dieu qu'Osiris. Si nous possédions la version égyptienne de l'histoire de Moïse, nous aurions peut-être des surprises. La ruine d'Odin, citée plus haut, si elle n'est pas antérieure à tout contact avec le christianisme, serait la trace d'un mélange analogue. Ce ne serait pas moins extraordinaire. Peut-être y a-t-il eu au début des apôtres du Christ pour comprendre la parole « Allez enseigner les nations, de la manière que je crois la bonne ». 35. La compréhension du christianisme nous est rendue presque impossible par le profond mystère qui recouvre l'histoire des premiers temps. Ce mystère porte d'abord sur les rapports du christianisme, d'une part avec Israël, d'autre part avec les traditions religieuses des gentes. Il est extrêmement improbable qu'il n'y ait pas eu dans les débuts des essais de syncrétisme analogues à ceux dont rêvait Nicolas de Cuès. Or, il n'y a aucune trace de condamnation portée par l'Église contre de tels essais. D'ailleurs, Nicolas de Cuès non plus n'a pas été condamné. Et pourtant, tout s'est passé en fait comme s'ils avaient été condamnés. À côté des niaiseries de Clément d'Alexandrie, qui ne savait même plus quels liens étroits unissent la philosophie grecque classique et la religion des mystères, il y a bien dû y avoir des hommes qui ont vu dans la bonne nouvelle le couronnement de cette religion. Que sont devenues leurs œuvres? Porphyre disait qu'Origène avait interprété symboliquement les écritures d'Israël en se servant des livres secrets des pythagoriciens et des stoïciens. Pourtant, quand Origène parle de la philosophie grecque, c'est avec la prétention de la réfuter. Pourquoi? Parce que c'est la boutique d'en face, ou pour une autre raison? Voulait-il cacher sa dette envers elle? Et pourquoi? Ce passage de Porphyre révèle clairement que les mystères étaient entièrement construits d'allégories. Eusèbe cite aussi une lettre plus qu'étrange de l'évêque Mélito à Marc Aurèle, écrite sur un ton très amical. Notre philosophie a eu son développement, d'abord chez les barbares, mais sa floraison parmi tes peuples, sous le grand règne d'Auguste. Ces barbares ne peuvent être que les Hébreux, mais que signifie le reste de la phrase? Auguste est mort l'an 14 de notre ère. Le Christ était adolescent. Le christianisme n'existait pas. Notre philosophie, serait-ce dire notre logos, le Christ? A-t-il eu sa fleur, c'est-à-dire sa jeunesse, parmi les gentes en Grèce ou en Italie? Cet évêque ajoute, la meilleure preuve que notre logos a grandi en même temps que le beau commencement de l'Empire pour le bien, c'est qu'il n'a subi nulle humiliation de l'autorité d'Auguste, mais au contraire, toute splendeur et toute gloire conformément aux vœux de tous. On parle toujours de la vie cachée de Nazareth. On oublie seulement que, s'il est bien vrai que cette vie a été cachée, on ignore rigoureusement si elle s'est déroulée à Nazareth. Voici tout ce qu'on sait de la vie du Christ, d'après l'Évangile, avant le baptême de Jean. Il est né à Bethléem, encore tout petit, il était emmené par sa famille en Égypte, il y est resté un temps indéterminé. Joseph est revenu après la mort d'Hérode, mais rien ne dit que ce soit aussitôt après. Il a pu s'écouler des années. À 12 ans, il a passé les fêtes de la Pâque à Jérusalem. Ses parents étaient alors installés à Nazareth. Il est singulier que Luc ne mentionne pas la fuite en Égypte. À 30 ans, Il a été baptisé par Jean. Et c'est rigoureusement tout. C'est là encore un mystère très singulier. Un troisième mystère est celui des rapports du christianisme avec l'Empire. Tibère voulait mettre le Christ dans le Panthéon et refusait d'abord de persécuter les chrétiens. Il a changé d'attitude ensuite. Pison, fils adoptif de Galba, était probablement de famille chrétienne, confère les travaux de M. Hermann. Comment expliquer que des hommes comme Trajan, et surtout Marc Aurèle, aient si impitoyablement persécuté les chrétiens? Pourtant, Dante met Trajan au paradis. Au contraire, Commode et d'autres empereurs scélérats les ont plutôt favorisés. Et comment ensuite l'Empire a-t-il adopté le christianisme comme religion officielle? Et à quelles conditions? Quelle dégradation a-t-il dû souffrir en échange? Comment s'est accomplie cette collusion entre l'Église du Christ et la bête? Car la bête de l'Apocalypse est presque sûrement l'Empire. L'Empire romain était un régime totalitaire et grossièrement matérialiste, fondé sur l'adoration exclusive de l'État, comme le nazisme. Une soif de spiritualité était latente chez les malheureux soumis à ce régime. Les empereurs ont compris dès le début la nécessité de l'éteindre avec une fausse mystique, de peur qu'une mystique véritable ne surgît et ne bouleversât tout. Il y eut une tentative pour transporter à Rome les mystères d'Eleusis. Ces mystères avaient presque certainement, des indices probants le montrent, perdu tout contenu authentique. Les massacres atroces qui s'étaient déroulés si souvent en Grèce, et notamment à Athènes, depuis la conquête romaine et même avant, avaient très bien pu impressionner la transmission. Les mystères furent peut-être fabriqués avec des initiés du premier degré. Cela expliquerait le mépris avec lequel Clément d'Alexandrie en parle, bien qu'il eût peut-être été initié. Pourtant, la tentative du transfert échoua. En revanche, les druides et les sectateurs du culte secret de Dionysos furent exterminés. Les pythagoriciens et tous les philosophes, impitoyablement pourchassés. Les cultes égyptiens interdits. Les chrétiens traités comme on sait. Le pullulement des cultes orientaux à Rome, à cette époque, ressemble tout à fait à celui des sectes genre théosophiques aujourd'hui. Avant qu'on puisse se rendre compte, dans le premier cas comme dans le second, ce n'était pas l'article authentique, mais des fabrications destinées aux snobs. Les Antonins sont comme une oasis dans l'histoire atroce de l'Empire romain. Comment ont-ils pu persécuter les chrétiens? On peut se demander si, à la faveur de la vie souterraine, il ne s'était pas introduit parmi les chrétiens des éléments réellement criminels. Surtout, il faut tenir compte de l'esprit apocalyptique qui les animait. L'attente de l'avènement prochain du royaume les exaltait et les affermissait pour les actes d'héroïsme les plus extraordinaires, comme fait aujourd'hui, pour les communistes, l'attente prochaine de la révolution. Il doit y avoir beaucoup de ressemblances entre ces deux psychologies. Mais aussi, dans les deux cas, une telle attente est un très grand danger social. Les historiens antiques sont pleins d'histoires de villes où, à la suite d'une mesure de libération d'esclaves prise par un tyran pour une raison quelconque, les maîtres ne pouvaient plus se faire obéir de ceux qui restaient. L'esclavage était un état si violent qu'il n'était supportable que pour des âmes écrasées par l'absence totale d'espérance. Dès qu'une lueur d'espérance surgissait, la désobéissance devenait endémique. Quel effet ne devait pas produire l'espérance enfermée dans la bonne nouvelle? La bonne nouvelle n'était pas seulement la rédemption, mais plus encore la quasi-certitude de l'arrivée très prochaine du Christ glorieux ici-bas. Dans saint Paul, pour une recommandation de douceur et de justice adressée au maître, il en a peut-être 10 adressées aux esclaves, leur enjoignant de travailler et d'obéir. On peut à la rigueur expliquer cela par un reste de préjugés sociaux demeurait en lui malgré le christianisme. Mais beaucoup plus probablement, il était bien plus facile d'amener les maîtres chrétiens à la douceur que les esclaves chrétiens enivrés par l'attente du jour suprême à l'obéissance. Marc Aurèle désapprouvait peut-être l'esclavage, car il est faux que la philosophie grecque, sauf Aristote, ait fait l'apologie de cette institution. Au témoignage d'Aristote, certains philosophes la condamnaient comme absolument contraire à la nature et à la raison. Platon, dans le Politique, n'en conçoit l'usage légitime qu'en matière criminelle, comme c'est le cas chez nous pour la prison et les travaux forcés. Mais Marc Aurèle avait pour métier avant tout de conserver l'ordre. Il se le répétait à lui-même amèrement. Les catholiques justifient volontiers les massacres d'hérétiques par le danger social inhérent à l'hérésie. Il ne leur vient pas à l'esprit que les persécutions des chrétiens au premier siècle soient susceptibles de la même justification avec au moins autant de raisons. Beaucoup plus sans doute, car aucune hérésie ne contenait une idée aussi bouleversante que l'attente presque certaine de l'avènement prochain du Christ-Roi. Il est certain qu'une vague de désobéissance parmi les esclaves de l'Empire aurait fait crouler tout l'édifice au milieu d'affreux désordres. Au temps de Constantin, l'attente apocalyptique devait être considérablement usée. D'autre part, les massacres de chrétiens en faisant obstacle à la transmission de la doctrine la plus profonde avaient peut-être, et même probablement, vidé le christianisme d'une grande partie de son contenu spirituel. Constantin put réussir avec le christianisme l'opération que Claude n'avait pas réussi avec Éleusis. Mais il n'était pas de l'intérêt ni de la dignité de l'Empire que sa religion officielle apparût comme la continuation et le couronnement des traditions séculaires des pays conquis, écrasés et dégradés par Rome, Égypte, Grèce, Gaule. Pour Israël, cela n'avait pas d'importance. D'abord, la nouvelle loi était très loin de l'ancienne, et puis surtout, Jérusalem n'existait plus du tout. Au reste, l'esprit de l'ancienne loi, si éloigné de toute mystique, n'était pas si différent de l'esprit romain. Rome pouvait s'accommoder du dieu des armées. Même l'esprit nationaliste juif, en empêchant beaucoup de chrétiens dès l'origine de reconnaître l'affinité du christianisme avec la spiritualité authentique des gentes, était pour Rome un élément favorable dans le christianisme. Cet esprit, chose bizarre, s'était communiqué même à des païens convertis. Rome, comme tout pays colonisateur, avait moralement et spirituellement déraciné les pays conquis. C'est toujours là l'effet d'une conquête colonisatrice. Il ne s'agit pas de leur rendre leurs racines, il fallait les déraciner encore un peu davantage. Remarquez, comme confirmation, que la seule prophétie païenne qui ait jamais été mentionnée par l'Église est celle de la Sibylle, que la tradition romaine s'était annexée. Au reste, qu'il y ait eu réellement une attente messianique à Rome, très semblable à celle de la Judée et également charnelle, la quatrième éclogue le montre clairement. Le christianisme, soumis à l'influence combinée d'Israël et de Rome, y réussit brillamment. Aujourd'hui encore, partout où des missionnaires le portent, il a la même action de déracinement. Tout cela est un tissu de suppositions, bien entendu. Mais il y a une quasi-certitude, c'est qu'on a voulu nous cacher quelque chose, et on y a réussi. Ce n'est pas par hasard qu'il y a tant de textes détruits, tant de ténèbres sur une partie si essentielle de l'histoire. Il y a probablement eu une destruction systématique de documents. Platon y a échappé. Par quel bonheur? Mais nous n'avons pas le Prométhée délivré d'Esquille qui devait laisser entrevoir la vraie signification de l'histoire de Prométhée, l'amour unissant Prométhée à Zeus, déjà indiqué, mais à peine, dans le Prométhée enchaîné. Et combien d'autres trésors perdus? Les historiens nous sont parvenus avec de grands trous. Il ne reste rien des gnostiques, et peu de choses des écrits chrétiens des premiers siècles. S'il y en a eu, où le privilège d'Israël n'a pas été reconnu, ils ont été supprimés. Pourtant, l'Église n'a jamais déclaré que la tradition judéo-chrétienne soit seule à posséder des écritures révélées, des sacrements, la connaissance surnaturelle de Dieu. Elle n'a jamais déclaré qu'il n'y a aucune affinité entre le christianisme et les traditions mystiques des pays d'autres qu'Israël. Pourquoi? Ne serait-ce pas parce que le Saint-Esprit l'a malgré tout préservé d'un mensonge? Ces problèmes sont aujourd'hui d'une importance capitale, urgente et pratique. Car comme toute la vie profane de nos pays vient directement des civilisations païennes, tant que subsistera l'illusion d'une coupure entre le soi-disant paganisme et le christianisme, celui-ci ne sera pas incarné, il n'imprégnera pas toute la vie profane comme il le doit, il en restera séparé et par suite non agissant. Combien notre vie changerait si on voyait que la géométrie grecque et la foi chrétienne ont jailli de la même source.